Aujourd'hui, on va parler canard, ou pour être plus précis, colvert, aventure, découverte du monde et bien sûr des liens familiaux. Vous l'aurez compris, nous sommes réunis pour la sortie événement de Migration. Débrief film spécial Migration, c'est parti, générique.
Débrief film, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 52 d'Opening Weekend. Et oui, déjà 52 épisodes. Et épisode à part, puisqu'on a eu l'occasion il y a quelques jours d'enregistrer une interview totalement exclusive lors de la journée presse du film Migration. Et c'est mes trois chroniqueurs du jour qui étaient là, à savoir Arthur. Bonjour Arthur.
Salut Tom, salut à tous.
Jérémy, bonjour Jérémy.
Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous.
Et l'innommable et inclassable Julien Bernard. Bonjour Julien.
À ce point-là, bonjour Tom, bonjour tout le monde.
Innommable Julien.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Plaisir partagé et aujourd'hui, comme je disais, émission exceptionnelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette interview de Benjamin Reyner, on va dérouler un peu le programme habituel, à commencer par Julien, un petit point international et US, comme tu sais bien nous le faire.
On va essayer d'aller vite. Alors, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie différence entre le box-office US et le box-office worldwide. Ce n'est pas du tout le même ordre. Donc, en première position, et tu me confirmeras ça ou non, Arthur, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on a un film indien. Est-ce que c'est une première, en tout cas pour un film indien, d'être à cette première place, puisqu'il cumule 42 millions de dollars de recettes? C'est Animal. Animal, si vous ne l'aviez pas bien entendu. Il y avait quoi d'autre comme film indien sur lequel on peut se reposer, Arthur?
Alors, il s'agit du troisième démarrage pour un film de Bollywood cette année, en tout cas. Les deux films qui l'ont précédé étaient Pathaan et Jawan. Je pense que je les prononce bien. Mais c'était les deux scores qui ont généré le plus de revenus sur leur démarrage. Donc, il faut savoir que le premier était arrivé à 37 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end. Le deuxième avait atteint 64 millions. Et là, aujourd'hui, on arrive avec 42 millions de dollars sur son week-end d'ouverture.
On notera que c'est un film indien qui n'a pas fait que ses entrées en Inde, puisqu'on voit en effet que 38 territoires ont déjà sorti le film.
Exactement. Et aux États-Unis, alors il est en 7e position. Il a fait 6 millions de dollars de recettes. Donc, ça s'exporte plutôt bien.
Alors, est-ce que le fait de retrouver un film indien en première position du box-office worldwide doit nous amener à tirer des conclusions sur le comportement du box-office américain?
J'ai pas compris exactement toute ta question.
Non, je vais la reformuler autrement. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait un film indien qui est en première position du box-office worldwide indique peut-être un marché américain plus faible?
Alors ça, de toute façon, le marché américain cette semaine, il est assez faible, puisqu'en tête, on y reviendra, mais c'est Beyoncé qui a ouvert autour de 23 millions de dollars. Mais surtout, est-ce que ça ne s'internationalise pas plus parce qu'on retrouve justement des films indiens, des films chinois, des films américains mais à tendance française. Voilà, c'est vrai que c'est, en tout cas sur cette semaine, c'est un marché très ouvert. Donc en deuxième place, et qui est c'est Napoléon, lui qui a chuté de 46%. Alors on est toujours sur le box-office worldwide. Napoléon qui a chuté de 46%, qui aujourd'hui a un cumul de 136 millions. Et alors, si on se met sur le marché américain, il est en 6e position. Il a chuté de 65% et il est à 136 millions de dollars de recettes.
En 3e position, on a également un autre film américain. Évidemment, le marché américain est quand même largement présent sur ce top worldwide.
Ouais, alors Hunger Games, lui, qui est en 2e position sur le box-office US, en 3e sur le box-office international. Au box-office US, il a rajouté 14 millions, il a perdu 50%. On sait que normalement, sur cette semaine, on perd plus, les précédents Hunger Games avaient perdu plutôt 60-65%. C'est plutôt une bonne performance. Il en est, après 17 jours d'exploitation, il en est à 121 millions, mais il est quand même toujours loin des précédents, puisque celui de 2012... il était à 302 millions, celui de 2013, 335, 258 pour celui de 2014 et celui de 2015, 227. Donc 121 millions, ça le place assez loin. Et au niveau worldwide, son cumul, il est à 243 millions.
Alors je crois que derrière, c'est un film concert qui arrive Et un film concert qui est sorti sur beaucoup, beaucoup de territoires, 95 territoires.
Alors, en tout cas, les films concerts, je pense qu'on va en voir de plus en plus, puisque c'est vrai que les Américains, vous vous souvenez, il y avait la sortie de Taylor Swift qui avait fait plus de 90 millions de dollars de recettes, donc qui avait cartonné. Et les Américains avaient vu ça comme une vraie alternative quand il peut y avoir des trous de programmation, comme ça va être le cas sûrement en 2024 avec le report de tous les films qu'on a pu voir. Donc, alors, il a ouvert à 21 millions. C'est malheureusement...
Alors, on parle de pardon, Renaissance, film by Beyoncé. Ouais.
Exactement. Il a ouvert à 21 millions. Si je me trompe pas, c'est bien ça ou pas? 21 millions, tout à fait. Et donc... On l'a dit, Taylor Swift, c'était 90, mais on peut pas comparer à chaque fois avec Taylor Swift. C'est mieux que le Michael Jackson qui avait fait... que c'est juste en dessous du Michael Jackson qui avait ouvert à 23. C'est en dessous du Justin Bieber qui avait ouvert à 29. Et c'est en dessous du Hannah Montana qui avait ouvert à 30, qui avait ouvert à 31. Au niveau worldwide, il est à 27 millions. En France, il a, on peut le dire tout de suite, je crois qu'il a ouvert à 43 000 entrées. Alors lui, par contre, c'est au-dessus de Taylor Swift qui, sur sa première semaine, était autour de 30-35.
Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais finalement, ce n'est pas trop une surprise en France, hein, puisque la notoriété de Beyoncé reste tout de même au-delà de celle de Taylor Swift.
Ben, je pense qu'au niveau international, c'est vrai qu'il y aurait une vraie différence entre ces deux superstars. En tout cas, c'est assez parlant sur les chiffres de Beyoncé. Ensuite, on a quoi ? On a Wish qui a du mal aux États-Unis. Wish qui est en cinquième position aux États-Unis et sur le Worldwide. Wish qui a perdu moins 62% et qui a rajouté 7,4 millions. Après 10 jours d'exploitation, son score, c'est 42 millions. 42 millions. Alors Encanto, après 12 jours, lui, il avait perdu que moins 28% sur sa deuxième semaine. Il était à 58 millions. Donc là, il y a déjà un vrai problème au niveau de la tenue pour le film. Moana, Vaiana en français, lui, après 12 jours, alors en deuxième semaine, lui, il avait perdu moins 65, mais il était déjà à 120 millions. Et sans parler de Frozen, la Reine des Neiges, en 2013, qui avait lui aussi perdu moins 68, mais qui était déjà à 134 millions. Donc, perte importante, ça va être compliqué pour la suite de Wish aux États-Unis, étonnamment. Donc, il va un petit peu aller voir ce qui se passe à l'international, puisqu'à l'international, aujourd'hui, il est à 81 millions de dollars de recettes, avec le UK en tête qui a fait qu'à 5,5, la Chine 5,3, la France 4,1, Mexique et l'Allemagne.
Bon, en tout cas, pas trop d'inquiétude non plus à avoir sur Wish, puisqu'on le sait aussi, les carrières des films d'animation se font sur la durée.
Oui, mais comme je te le disais, au niveau de la tenue, c'est pas aussi performant. Il aurait fallu que ce soit sur un petit moins 30, si tu veux, pour que c'est une tenue aussi importante que celle de Encanto ou de Puss in Boots 2 qui avait vraiment tenu sur la durée. Donc, on va voir comment ça se comporte la semaine prochaine, déjà chez nous.
Ouais, et on va en parler tout à l'heure lors du box-office France, parce que Wish est sorti évidemment cette semaine en France. Derrière, pour terminer, Julien, une pléiade de films chinois, coréens et japonais.
C'est ça. Alors, on a quoi ? On a Across the Furious Sea, lui qui a 60 millions, qui a rajouté 19 millions sur le Worldwide. C'est un film chinois.
Tout à fait.
Après un film sud-coréen, 12-12, The Day Seoul Spring. Je vous le balance comme ça, après c'est à vous de chercher.
12-12.
Donc lui, il a rajouté 14 millions, il a 28 millions de dollars. À nouveau un film chinois, So Long for Love, pour sa première semaine, il est à 12 millions. On a Godzilla Minus One.
Oui, un film sur lequel je voulais mettre un petit accent, Julien, si tu me permets. Parce qu'il faut savoir que le film a ouvert du coup aux États-Unis et au Canada du coup le week-end dernier. Il s'est placé aux troisième position du classement du box-office US. Donc c'est une très belle performance pour le film de la Toho International, qui est la boîte historique des films de la franchise Godzilla. Et un résultat d'autant plus impressionnant que le film n'était diffusé qu'en japonais sous-titré. Donc c'est un démarrage au-dessus de Demon Slayer qui était sorti un peu plus tôt en début d'année. Et pour information, vous pourrez retrouver le film en format spéciaux jeudi et vendredi en 4DX et en IMAX ici en France.
Et on est à peu près bon, on peut juste rajouter Trolls, qui est à 160 millions de dollars worldwide.
Et à noter que les trois que tu as cités, Julien, Across the Fire Sea, 1212 et So Long for Love, ont tous les trois réalisé leurs entrées uniquement dans leur pays d'origine, à savoir la Chine et la Corée pour les pays concernés. Donc c'est plutôt une belle performance. On parlait de box-office US, on va parler bientôt de box-office français. Du coup, quelle meilleure manière d'introduire l'interview de notre réalisateur français qui réalise un film franco-américain, à savoir Migration. Vous étiez, messieurs, il y a quelques jours dans un hôtel à Paris pour l'interviewer. C'est le moment de lui laisser la parole, Benjamin Reiner, pour vous parler de Migration.
Nous avons la chance, l'opportunité d'avoir avec nous à notre micro le réalisateur Benjamin Reiner, le réalisateur français à la tête de la dernière production Illumination. Je ne suis pas tout seul puisque Arthur et Jérémy m'accompagnent pour cette interview express. On en profite également pour remercier Universal et notamment le service presse Sylvie, Julia et Maëlys. Comment allez-vous Benjamin?
Ça va très bien.
Ouais. À J-6 de la sortie mondiale puisque la France sera le premier pays à sortir le film. Ouais.
Tout à coup, ça va moins bien. Vous m'avez rappelé. J'étais dans ma petite bulle là, et puis ça va un peu stresser évidemment, hein, parce que c'était une longue production, mais je suis très impatient en fait de voir l'accueil qui va être fait au film, quoi.
Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, mais on va revenir rapidement sur votre parcours. Je laisse Jérémy.
Pour la Bio Express.
Exactement.
Allez, c'est parti. Bonjour Benjamin et merci beaucoup de nous accorder votre temps. Alors Benjamin Reiner, vous êtes né le 14 novembre 1983 et après un bac scientifique, vous commencez à fréquenter les classes préparatoires aux écoles d'art avant d'intégrer les Beaux-Arts d'Angoulême dont vous sortirez diplômé en bande dessinée. Vous ne vous arrêtez pas là et enchaînez par une école d'animation, La Poudrière, dans laquelle vous réalisez vos premiers courts-métrages d'animation, dont votre film de fin d'études, La queue de la souris, en 2007. Quelques temps après votre sortie de l'école, vous êtes engagé pour travailler d'abord comme directeur artistique sur le projet de long métrage d'animation Ernest et Célestine, avant de passer à la réalisation de ce film avec deux animateurs expérimentés, Vincent Patard et Stéphane Aubier. Après un passage remarqué à la quinzaine des cinéastes de Cannes en mai 2012, le film sort en France le 12 décembre de cette même année et c'est un véritable carton, on peut le dire. Plus d'un million d'entrées et des critiques unanimes qui ne tarissent pas d'éloges sur la beauté plastique du film, sa poésie et son humour. En consécration, le film remporte le César du meilleur film d'animation en 2013 et obtient une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2014. Alors, en parallèle, vous créez dès 2008 et sous le pseudonyme, j'espère que je le prononce bien, de Reineke.
Ouais, Reineke. Ouais. Reineke. Personne n'a jamais réussi à l'utiliser, ce pseudo.
Donc, vous créez un blog de bande dessinée, ouais, dans lequel, je cite, vous commenciez tranquillement à mettre en ligne des histoires, des films, trois petits points. De cet univers foisonnant et dans lequel on mesure une fois de plus l'étendue de votre talent, deux albums de BD verront le jour, Un bébé à livrer et Le grand méchant renard, qui sera ensuite décliné en long métrage d'animation, Le grand méchant renard et autres contes, dont vous assurez la co-réalisation avec Patrick Imbert. Une fois de plus, succès public et critique sont au rendez-vous et votre nom figure bel et bien parmi les réalisateurs qui comptent dans le monde de l'animation. Alors aujourd'hui, nous sommes face à vous pour évoquer la sortie de votre nouveau long métrage Migration, produit par le célèbre studio d'animation Illumination et distribué par la non moins célèbre Major Universal Pictures. Mais une question nous brûle les lèvres. Comment en êtes-vous arrivé là à travailler avec Hollywood ?
Voilà. en fait, le fait que Ernest Célestine a été nommé aux Oscars, ça a un petit peu attiré l'attention de Chris Meledandri, puisque je me rappelle pendant qu'on était venu pour la cérémonie, un peu avant, il y avait une sorte de panel de tous les réalisateurs qui étaient nommés, réalisateurs et réalisatrices qui étaient nommés pour l'Oscar du film d'animation. Et j'avais croisé Chris Meledandri à ce moment-là, il m'avait juste dit bonjour, m'avait félicité pour le film, et puis ça s'était arrêté là. Et donc après quelques années, hein, puisque j'ai eu le temps de faire Le grand méchant renard et la bande dessinée, puis le film, il m'a recontacté, je crois que c'était en 2017, fin 2017, et il m'a proposé fin 2018, je me rappelle plus, il m'a proposé de le rencontrer en fait. Et moi, j'avoue que venant du monde de la 2D, je ne comprenais pas trop pourquoi il voulait me parler, quoi. Enfin, je ne savais pas faire de films en 3D, encore moins de films d'Illumination, quoi, avec cette espèce d'ampleur de budget gigantesque. Du coup, ça ne correspondait pas forcément à ce que je savais faire. Et on s'est rencontrés, j'ai été complètement charmé par le pitch du film, en fait. Il m'avait donné un scénario, il m'avait expliqué ce qu'il voulait raconter. Et c'était tellement personnel, en fait, qu'on sentait que c'était vraiment un film qui allait parler de... Bah, de tout ce qu'on peut vivre nous enfin voilà au sein d'une famille qui est un peu mise à l'épreuve et que c'était un moyen génial de pouvoir parler de nos propres expériences ou même de parler aux autres, d'essayer de collecter des expériences des autres et puis de voir ce qu'il y a de drôle là-dedans, essayer de le reporter dans le film, que je me suis dit bon, on va essayer, on va voir comment ça se passe et voilà. Et puis bah, 5 ans plus tard ça a donné Migration, quoi.
Alors, vous qui venez d'entrer dans Grande Famille Illumination, alors vous n'êtes pas le premier français.
Ouais,
il y avait eu Pierre Coffin, ouais. Et Chris Renaud qui étaient à l'origine de la franchise Moi, Moi, c'est méchant. Ouais. On va rappeler quelques chiffres Illuminations pour donner un peu le vertige. Mais c'est 47 millions d'entrées depuis 2010. Ça veut dire que 3/4 de la population française ont au moins vu un film Illumination. Le studio numéro 1 depuis sur les 3 dernières années, 14 millions d'entrées. Ce sera le 14e film, Migration. Ils ont créé 4 franchises, 8 films à plus de 3 millions d'entrées et le plus gros succès pour l'instant de l'année cinéma avec Super Mario Bros. Il va être compliqué à battre, mais vous justement, c'est comment on arrive à s'intégrer dans cette famille avec des budgets pharaoniques, les process, tout est différent d'un coup.
Ouais, mais on avait moi et Chris, le producteur, donc on avait une sorte de pacte, enfin c'est pas un pacte, mais c'est juste, je lui avais dit en gros écoute, moi je veux bien essayer, je sais pas vraiment faire des films d'Illumination. Et si tu vois que ça se passe pas bien, je m'en vais, hein, y a pas de souci, c'est pas un problème, quoi. Et du coup, bah, en fait, j'ai pas cherché à m'adapter, en fait, forcément à Illumination, forcément un petit peu, parce que je savais bien qu'il y avait un style graphique et un style de narration un peu particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment essayé de donner ce que moi je savais donner pour le film. Et j'ai pas cherché à me dire, bon, je vais faire un petit peu différemment. C'est le producteur qui dirige le film, entre guillemets, c'est lui qui donne la direction. Mais il m'a vraiment laissé, moi-même, raconter les choses que lui, il voulait raconter. Et pour vous donner un exemple, il y a une séquence avec les héros, où là, vraiment, il m'a laissé carte blanche, qui n'était pas du tout écrite comme ça dans le script à l'origine. On s'est rendu compte que c'était un peu problématique, la manière dont c'était écrit. Non pas, enfin, c'était juste que à l'origine, les héros étaient méchants dans le film. Et moi, j'ai proposé de changer un petit peu leur attitude, en fait, dans le film. Donc ça, il m'a permis vraiment de tout réécrire, et c'est comme ça que j'ai pu finalement m'intégrer dans le film. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire de mon mieux et je me, enfin voilà, j'essaie pas de modifier ma méthode pour ce film-là en particulier, quoi.
Bah, je pense qu'ils vous ont pris pour ce que vous êtes aussi, parce que c'est Benjamin Reiner. Quand on voit Le Grand Méchant en Art, on a besoin de cette patte poétique et on la retrouve en tout cas sur Migration, qui est pour ma part un vrai chef-d'œuvre. Mais
moi, j'avais une petite question, Benjamin, ouais. Sur justement tout ce qui est le processus créatif. Là, j'en avais une sur votre relation avec le scénariste Mike Waite, qui est notamment le scénariste d'un de mes films de chevet, Rock Academy, et également de la série plus récente White Lotus. Là, vous venez de le raconter, parce qu'il me semble que moi, j'ai le souvenir d'une petite anecdote que vous avez racontée sur scène au studio show, sur justement cette scène des hérons qui était très personnelle pour vous, qui vous rappeliez un voyage. Donc, du coup, quelle a été la collaboration d'une part avec le scénariste, et aussi comment est-ce que quand on arrive dans un studio comme Illumination, qui a une entité visuelle déjà assez présente dans le design de certains personnages, je pense notamment peut-être aux personnages humains, dont le design on retrouve de film en film, se ressemble un petit peu. Comment vous, qui veniez de l'animation 2D et d'une animation beaucoup plus, on peut le dire, poétique avec de l'aquarelle, des styles un petit peu aquarelle.
Ouais.
Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, si c'est le bon terme. Oui. Comment est-ce que du coup votre créativité a pu s'embriquer avec Illumination?
C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à Illumination, il n'était pas forcément question que, enfin, il n'était même pas question pour moi, en tout cas, de nier leur savoir-faire. En fait, ils ont un savoir-faire de dingue. Et moi, il se trouve que même si j'ai les films qui sont très connus, sur lesquels j'ai travaillé, les plus connus sont des films en aquarelle, enfin en tout cas qui reprend le style de l'aquarelle. Mes tout premiers films n'étaient pas du tout comme ça, c'était du papier découpé, enfin c'était des films étudiants, hein, mais c'était du papier découpé, et c'était radicalement différent, quoi. Enfin vraiment avec un graphisme silhouette noir et blanc, très proche de Prince et Princesse, mais avec beaucoup plus d'angle, en fait. Et du coup, j'ai, depuis que j'ai commencé mes études, toujours une espèce de règle, le graphisme s'adapte au film, et donc à moi en tant que réalisateur de m'adapter au graphisme du film. Je ne dois pas imposer un graphisme particulier. Je sais qu'il y a des gens, quand j'étais arrivé à Illumination qui me disaient « Ah, mais tu vas faire de l'aquarelle ». Je leur dis « Bah non, l'aquarelle, je sais la faire de mon côté, mais à Illumination, ils ne savent pas forcément faire ça, donc je ne vais pas les forcer à prendre des pinceaux et tout ça. » Donc, j'ai essayé de l'adapter. Et ça se prêtait très bien aussi à avoir un graphisme. Illumination, ils sont très, très doués pour... prendre des designs très particuliers. Design, c'est le look des personnages, en fait, qui sont souvent créés par Éric Guillon, donc qui sont complètement farfelus, très école franco-belge, un peu sans PS, que Franquin, enfin, c'est très particulier, comme et de les rendre vrais, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait les toucher, qu'on pourrait les... Un mignon, malgré l'étrangeté de ce que c'est, on a l'impression qu'on peut le toucher, quoi. La texture, tout est parfait, quoi. Enfin, c'est... Et donc, pour Migration, c'était génial, parce qu'il y avait ce rapport à la réalité que je trouvais... chouette pour le film. On a fait des décors qui sont peut-être plus réalistes que d'habitude dans les films d'Illumination, un peu plus naturalistes, avec des lumières vraiment, on cherchait à choper des lumières qu'on peut voir dans la vie réelle, en fait, qu'on peut voir si on part en randonnée, des choses comme ça. Et donc, ouais, vraiment, on essayait de s'attacher à avoir ce rendu-là et aussi de garder ce côté... Moi, ce que j'adore avec les personnages de pareil, des canards, c'est que si on regarde le détail des plumes, tout ça, c'est des colverts, il n'y a presque aucun doute, mais ils ont des têtes vraiment très distincte, enfin très cartoon, très et donc on a travaillé comme ça, ouais, le graphisme. Après, c'est beaucoup de recherche, hein. C'est-à-dire que là, je dis ça comme si c'était une évidence, mais ça a été des tâtonnements à n'en plus finir.
J'imagine beaucoup de storyboards aussi, ouais. Sur lesquels que vous avez dessiné, j'imagine.
Alors, je participe beaucoup au storyboard. J'ai une équipe de storyboarders, hein, une énorme équipe de storyboarders qui m'a beaucoup aidé sur le film. Et moi, il se trouve que effectivement, j'ai beaucoup de mal à lâcher le storyboard, donc j'en fais énormément. Et c'est aussi une méthode pour moi, le storyboard, qui me permet de trouver aussi le design des personnages, dans le sens où à force de les dessiner, je commence à comprendre leur logique, je commence à comprendre. Donc, j'ai beaucoup storyboardé aussi sur le film.
Alors moi, j'avais une question, il y a quand même une constante dans votre œuvre, c'est ouais. Le monde animalier,
ouais.
Et pourtant dans Migration, il y a des êtres humains, notamment ouais. qui m'a assez, on va dire, glacé le sang quand il apparaît, ouais. C'est donc le on peut le dire, le méchant, le chef.
Ouais, ouais.
Est-ce que pour vos prochains projets, traiter un peu plus des êtres humains, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez des idées ou des envies?
Alors, il se trouve qu'avant de faire Migration, j'étais en train d'essayer d'écrire une histoire avec des humains, justement. J'avais beaucoup de mal, j'ai avoué. Du coup, Migration est arrivée et j'ai été assez charmé par le projet. Donc, je me suis dit, je vais essayer, puis on verra bien. J'ai mis ce projet en pause. Mais j'aimerais bien un jour, effectivement, faire un film avec des humains. Le deuxième truc aussi que j'ai remarqué... sur mon travail, c'est que ça parle toujours d'être mangé aussi. Il y a une constante chez moi, d'avoir une peur du cannibalisme, je sais pas, enfin, c'est un truc. Mais c'est toujours des animaux qui soit essaient de manger les autres, soit de se faire manger. Enfin, voilà. Donc je sais pas si mon prochain film sera de nouveau sur la peur d'être mangé, mais voilà, il y a des constantes comme ça qui reviennent. Je vais aller voir un psy ou un truc. C'est d'étudier un peu tout ça, quoi.
Et alors, justement, au niveau des thèmes qui parleront à toute la famille, donc on a un côté le père Mac, anxieux, peur du monde, et de l'autre Pam qui veut vivre sa vie, qui est prête à s'envoler, prête à découvrir le monde,
ouais.
À faire des rencontres. Ouais. Est-ce que c'est pas ça justement le principe d'une famille, que chacun pousse l'autre dans une direction qu'il ne maîtrise pas, de créer un espèce d'équilibre où les opposés s'attirent, telle une comédie humaine? Alors justement, on parlait humains-animaux, mais c'est presque une comédie humaine.
Ouais, c'était vraiment ce qui m'a séduit en fait dans le film, c'était d'avoir un sujet qui est très très humain, à laquelle tout le monde peut se retrouver. Enfin, je pense que n'importe qui a vécu en couple ou même qui a été dans une famille, en fait, peut ressentir ces relations-là qu'on a, qui sont très subtiles, très fortes. Et moi, c'est ce que j'ai adoré sur travailler sur ce film. C'est-à-dire, il y a presque un sujet un peu un sous-texte qui peut paraître un peu lourd, hein, finalement, parce qu'on parle de d'un couple qui avec les années se rendent compte qu'ils veulent plus les mêmes choses, et c'est difficile, en fait, c'est une crise de couple finalement à laquelle ils font face. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est un personnage qui choisit de changer en début de film, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas on a vraiment un personnage qui se dit, bon, écoute, je vais faire l'effort de changer. Et on montre que c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est compliqué de changer, en fait. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Et c'est ce que j'adore aussi dans ce film, c'est que ça parle de l'humain à mort, mais en même temps, on est dans la fable avec les animaux. C'est-à-dire qu'on va... Ce qui est le principe de la fable, en fait, c'est qu'on va pouvoir parler de choses de manière complètement, entre guillemets, cachée. Parce que c'est des animaux, donc on se rend pas forcément compte. Il me semble que Ésope, c'est pas privé pour se moquer des rois et des souverains en justement parlant du lion et du rat et des choses comme ça. Et ça lui permettait, enfin, je veux dire, Ésope aurait raconté au roi et au souverain les mêmes morales que dans son conte, que dans ses contes, mais avec des en ne mettant pas le lion comme étant le roi, en disant c'est un roi qui rencontre un esclave et puis l'esclave lui sauve la vie. Je pense qu'il se fait couper la tête direct. Et enfin là, je dis pas qu'avec Migration je me serais fait couper la tête si on avait mis des humains.
Non, mais on est d'accord. C'est vrai que c'est.
Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans d'ailleurs.
Mais cette double lecture, elle est toujours. En tout cas, c'est vrai ce que les parents recherchent quand ils amènent les enfants ou quand ils vont voir un film d'animation et qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et alors justement au niveau des sentiments, des émotions, c'est jamais évident. De les faire transcrire à l'écran et là on sue avec eux.
Ouais, bah c'est surtout avec des canards, des colverts qui sont des oiseaux qui ont. Les oiseaux, ça a la particularité, ils se ressemblent tous, donc c'est pas évident de trouver un moyen pour les rendre distincts les uns des autres. Et puis même, ils ont un regard qui est très particulier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des perruches avec ma copine et au début, j'avais beaucoup de mal. En fait, c'est ma copine qui voulait des perruches, moi, je n'étais pas forcément pour. Et j'avais beaucoup de mal parce que c'est un animal qui n'exprime rien en fait, enfin au niveau des yeux, il a tout le temps le même regard, tout le temps la même bouche, il n'y a rien, très différent d'un chien par exemple. Un chien, on voit s'il est déprimé, on voit s'il est en colère, on voit qu'il est content, c'est très très évident quoi. Et une perruche, j'ai appris avec le temps que c'était vraiment avec la gestuelle du corps que finalement on va pouvoir comprendre qu'il est. Ah, au bout d'un moment, je comprenais, ah là elle est contente, ah là elle est grognon, okay. Tout ça. Et du coup, bah, c'était pas évident parce qu'il n'y a pas ces codes là en fait dans l'animal de base à. Donc il va falloir inventer des codes humains sur un animal qui est très différent, donc avec le risque qu'on perde un petit peu le côté canard en fait. Donc il a fallu trouver des astuces. C'était un très très long chemin. On a mis presque un an, je crois, à trouver le design final du personnage principal. Donc c'était pas évident, mais bon voilà, je suis très content du résultat. Donc voilà, ça valait le coup.
Arthur, tu avais une question ?
Oui, moi je voulais repartir sur la partie technique et puis parce qu'on le sait, c'est beaucoup beaucoup de personnes qui travaillent derrière un film d'animation de cette ampleur. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite idée du nombre d'animateurs ?
C'est particulier, il faudrait compter sur le générique, mais alors je sais que les chefs animateurs m'ont dit, alors c'était pas sur notre film, mais ils sont arrivés parfois à avoir 60 animateurs en même temps, voire 70, ce qui est énorme. Enfin, pour eux, c'est énorme mon travail. Nous, on était sur une moyenne, je crois, si je me souviens bien, d'à peu près une trentaine d'animateurs. Ça a pu augmenter par moment, ou ça a pu aussi. Mais c'était une petite équipe pour le film. C'est de ce qu'ils m'avaient dit, c'était resté une équipe assez réduite. Après, sur le film de manière générale, là, pareil, je ne saurais pas dire, mais je pense qu'il y a bien 400 personnes qui ont travaillé sur le film à Illumination, sans compter les musiciens, les acteurs, tous ces gens-là, quoi. Donc oui, c'est faut vraiment voir ça comme des artisans qui viennent chacun apporter leur patte, un micro détail. C'est mon producteur qui me disait parce qu'il vient souvent à Paris, à un moment il était tombé en extase devant Notre-Dame et il se posait la question, mais où sont passés les artistes, enfin tous ces gens qui ont construit ces cathédrales, enfin qu'est-ce que c'est l'équivalent aujourd'hui. C'était peut-être un peu orgueilleux de sa part, mais il s'est dit en fait ils sont sur les films d'animation par exemple, enfin il y a plein d'autres domaines sur lesquels les gens artistes travaillent, mais faut vraiment se rendre compte que c'est, enfin rien que de prendre l'exemple des plumes, c'était un travail mais titanesque pour un truc qui finalement on peut se dire c'est juste des plumes, mais non, ça a été vraiment, je dirais pas qu'elles ont été animées une par une à la main, mais presque en fait, ça a été vraiment un travail monumental. Et on voilà, c'est un petit détail qui finalement semble qui pour le film donne, ça leur donne tellement, quand ils sont en vol on les voit trembler, enfin on a cette sensation de synesthésie en fait, de sentir vraiment le vent presque
on sent le travail qui est mis derrière. Moi je me rappelle de making of de certains films d'animation sur des départements qui sont là pour les poils, des départements
l'eau,
pour la lumière,
la fumée,
pour l'eau,
c'est titanesque.
J'ai comme l'impression qu'on arrive à la fin de cet entretien, malheureusement. En tout cas, merci. C'est vraiment toujours un plaisir de recevoir des talents. Alors quand ils sont français et qu'ils nous proposent un film aussi incroyable, voilà, je me joins à Julien pour adresser mes félicitations. Parce que peut-être une dernière petite question un peu tournée vers l'avenir, même si on imagine que c'est encore un peu tôt parce que le film n'est pas sorti. Mais est-ce que vous envisagez une nouvelle collaboration avec Illumination, ou alors vous avez plutôt des projets de retourner vers de l'animation 2D?
Je reviens un peu à mon étape de départ, à savoir que quand j'étais allé à Illumination, c'est pas forcément de faire un film avec eux qui me séduisait, c'était surtout l'idée du projet en fait qui me séduisait énormément. Il se trouve qu'après l'équipe, je suis tombé amoureux de l'ensemble de l'équipe du studio, donc je serais plus que ravi de recommencer avec eux. Mais tout dépendra évidemment de l'histoire en fait qu'ils vont me proposer. S'ils me proposent une histoire, hein, même, parce que je sais pas s'ils vont me proposer de retravailler ensemble. Mais en tout cas, moi, ça a été un bonheur. Mais je serais aussi, en toute franchise, encore une fois, le Grand Méchant Renard, vous savez, ça a été 3 ans de travail. Ernest et Céline, c'était 4 ans. La Migration, c'était 5 ans. Donc, en fait, que ce soit un film français ou un film américain, moi, c'est surtout l'histoire et de me dire, je vais passer 4 ans, 5 ans de ma vie dessus, et je vais m'éclater pendant ces 5 ans. Quoi. Enfin, m'éclater, un bien grand mot, hein, parce qu'il y a des moments difficiles. Mais
toujours du plaisir.
Voilà, en tout cas, que j'arrive au bout. Quoi. Rien que ça, il faut se dire 5 ans de ma vie dessus, il faut que je sois sûr que j'ai des choses à raconter là-dessus. Donc, on verra avec si c'est un producteur français ou américain qui arrive à trouver cette histoire, je les suivrai avec grand plaisir.
Eh ben merci beaucoup Benjamin, on aurait aimé continuer encore de parler, même à partir sur les bandes dessinées. Ouais. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite, le meilleur pour Migration, on le rappelle, qui sort dans les salles mercredi 6 décembre.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci encore à Benjamin Reynor pour cette interview riche et qui, j'espère, vous a plu. Nous, on reprend le fil de notre podcast et je vais passer la parole à Arthur, puisque Arthur va vous parler de l'actualité des bandes annonces. Si vous avez un peu raté ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est le moment de vous remettre dessus. Et Arthur, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours?
Alors merci Tom, je voulais revenir sur un certain trailer qui est sorti déjà il y a quelques jours, mais c'est celui de Vice Versa 2. Donc le film sortira le 19 juin prochain. Fait intéressant sur cette bande-annonce, il faut savoir qu'elle a été vue 157 millions de fois en 24 heures quand elle est sortie. Et donc il faut savoir que c'est le record pour un film d'animation des studios Disney. Le précédent était détenu par La Reine des Neiges 2. Il faut savoir que sur ces 157 millions, 78 millions proviennent de TikTok uniquement. Et moi du coup j'ai une petite question pour vous. C'est est-ce que vous savez le top 3 des films Pixar en France?
Box Office?
Ouais.
Nemo, je crois, en premier.
Ratatouille.
Ah, c'est peut-être. Ouais, ça se joue. Ouais. Moi, je dirais Nemo, mais peut-être c'est.
Bah, il y a Toy Story.
Ah, c'est Nemo, en effet. Ratatouille en deuxième position et Les Indestructibles 2 en troisième. Et Vice Versa ne se place qu'en septième position des films du studio, pour information.
Il fait combien Nemo déjà? 10 millions, non?
9 millions 4. Ouais. Ratatouille, 7 millions 8. Les Indestructibles, 5, 8. Et je voulais revenir sur une qui est... La belle époque, absolument. Une qui est sortie le week-end dernier, il s'agit de Furiosa, le préquel au film Mad Max Fury Road réalisé par George Miller. Le film sortira le 22 mai 2024 et je vous encourage à voir, elle a l'air très bien. Le film Fury Road avait cumulé à l'époque en 2015, donc il y a de ça 9 ans, 2 360 000 entrées. Il avait été présenté en hors compétition à Cannes, ce qu'on espère aussi... On espère aussi que cet opus sera aussi présenté hors compétition ou en compétition à l'édition de l'année prochaine.
Tu iras quand même le voir.
De toute façon, présenté ou pas, on ira tous le voir. Et George Miller, il faut savoir que son dernier film était aussi présenté à Cannes, 3 millions à t'attendre, sorti en 2022, 194 695 entrées, un petit peu moins que la saga Mad Max.
Je reviens tout de même sur une info importante que tu donnais par rapport à la nouvelle bande-annonce de Vice Versa, c'est l'importance de TikTok, ouais, aussi désormais sur
la promotion des films.
Sur la promotion des films, notamment sur les films, on va dire, jeune public et young adulte. C'est bien la preuve que ça devient un média... même plus intéressant, mais incontournable. Incontournable, ouais.
Bah, je crois que sur les films d'animation, notamment les Trolls, bon, certes, qui est un film musical, mais les chiffres aussi avaient été extraordinairement élevés. Je crois que sur certaines bandes annonces, ça représente plus de 50% du total des millions de vues globales. Donc, TikTok, média de masse.
Il y avait eu le challenge sur les Minions 2 aussi.
Ouais, tout à fait. Bah, alors, en plus, après, s'il y a les... Si la communauté s'empare d'un film ou le détourne, que ce soit les Minions ou à l'échelle locale, le consentement, là, c'est jackpot pour
booster la notoriété. Mais à part le consentement, est-ce que, là, comme tu dis, justement, par rapport, tu as les films d'animation où il y a un véritable impact de TikTok, mais est-ce que sur d'autres types de films, ça a été vraiment démontré? Alors, peut-être sur les films famille ou...
Alors, juste, on le rappelle, parce qu'on reparle du consentement, et c'est important si vous n'avez pas suivi les derniers podcasts, que le consentement, donc le film de Vanessa Fillo, qui est sorti il y a désormais 2-3 mois, a vraiment généré sa notoriété après sa sortie, grâce à TikTok. Et c'est un film, si aujourd'hui il atteint 600 000 entrées, c'est en grande partie grâce à une trend, TikTok.
Bon, on peut dire que c'est en partie. Enfin, ouais, c'est,
en grande partie.
Parce que quand on regarde la courbe exceptionnelle, il gagne des parts de marché, je crois, 3 ou 4 semaines de suite. Et c'est à partir du moment où TikTok a commencé à être utilisé par la communauté et que du coup, effet boule de neige, la presse en parle et les gens qui peut-être n'en ont pas entendu parler sur TikTok, mais le voient dans la presse plus généraliste, qui commencent à s'y intéresser.
Mais par exemple, est-ce que ça peut avoir un intérêt de faire Napoléon, de mettre beaucoup de sous via TikTok sur Napoléon, qui cible un public un peu différent?
Ben en tout cas, je me souviens que Warner, pour la sortie du premier Dune, avait créé beaucoup, beaucoup de contenu sur TikTok, justement pour essayer de conjuguer le fait qu'il y avait un cast qui était quand même
jeune
et l'apanage d'une cible représentée sur TikTok, et avait utilisé le média pour ce qui était, donc à savoir évidemment créer un média pour créer des contenus, mais avait essayé de comprendre le langage de TikTok.
Et puis Barbie, il aurait fallu regarder à mon avis aussi, mais après comme c'est des volumes très importants, forcément l'impact est moindre. Mais Barbie, il a dû se passer quelque chose aussi.
Bon, vous l'aurez compris, on va en reparler de TikTok et de l'effet qu'il a sur la fréquentation à l'international, mais surtout en France. Arthur, au niveau des bandes annonces, est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire?
Non, c'est tout pour cette semaine.
C'est tout pour cette semaine.
On se retrouve pour un nouveau numéro.
Eh bien, je crois qu'il est désormais déjà l'heure d'aller voir ce qui se passe sur l'Hexagone et en France. Box Office France, c'est tout de suite après le petit jingle.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Jérémy, c'est pour toi le Box Office France. Tu vas nous parler de ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la fréquentation en salle.
Alors déjà un chiffre, 2,4 millions pour ce 49e week-end de l'année. C'est une très très légère baisse par rapport à la semaine dernière parce qu'on était à 2,5 millions environ, je ne sais pas si je me trompe. Donc on est quand même sur une tendance très positive. Évidemment, le film de Disney sur lequel on va revenir en détail a quand même joué le rôle de locomotive et on a des continuations plutôt satisfaisantes et une concentration un peu moindre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, autre chose quand même, avant de rentrer dans le détail, un petit focus à quelques semaines de la fin de l'année, parce qu'on est à 11 mois et un week-end. Selon les estimations du CNC, la fréquentation cinématographique a atteint en novembre 15,11 millions d'entrées, donc une hausse par rapport à novembre 2022, 4% de hausse, et un niveau inférieur à la moyenne évidemment des années pré-Covid 2017-2019, donc environ moins 19%. Nous sommes actuellement à 162,8 millions d'entrées, donc l'objectif qui circule des 180 millions d'entrées va être compliqué, mais on ne sait jamais. Il y a Wish, il y a Migration, il y a Wonka, il y a Aquaman.
Les Trois Mousquetaires.
Les Trois Mousquetaires, évidemment. Donc, pourquoi pas voilà, une belle fin d'année et 180 millions. Julien, tu dis si je me trompe, mais par rapport aux 200 millions qui semblaient, il y a quelques mois encore, inatteignables, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça d'être à 180 sur une année pleine de reprises.
Ouais, ça me semble être le score juste. C'est vrai qu'on avait tablé là-dessus sur le début d'année. Alors forcément, on se trompe toujours sur quel film va faire tant. Mais en tout cas, on sera pas loin. Et je pense même qu'on devrait les dépasser ces 180. Pas de beaucoup, mais l'objectif un petit peu recovery est atteint. Alors, on va voir pour l'instant 2024. Déjà, on s'inquiète un petit peu.
2024,
mais attendons.
On peut le dire quand même qu'on est un peu comme l'année dernière. Donc, parce que je dis année complète, mais j'entends par là une année où il n'y avait pas de film décalé, puisque l'année dernière, on était encore sur les reports dus au Covid. L'année prochaine, là, c'est plutôt une année entre guillemets incomplète, puisqu'il y a eu la grève entre temps et que beaucoup de grosses propositions 2024 sont déjà parties sur 2025, malheureusement.
En tout cas, sur l'année 2023, relativement été peu impacté par les grèves. En très grosse sortie, on peut signaler seulement Dune 2 qui a été décalé de 2023-2024. C'est là très notable. Le reste, il y en a eu, mais c'est vraiment Dune 2 qui est le décalage le plus notable. Et donc, ça a peu affecté la fréquentation autour de tout de même 2-3 millions d'entrées.
Ouais, donc finalement, 180-183, bon, on aurait pris, évidemment. Mais c'est pas non plus la catastrophe espérée.
Quoi qu'il en soit, pour en revenir sur les films déjà sortis, y en a un qui a pris sans surprise la première position du classement cette semaine. Jérémy, il s'agit de
Wish, Achat et la Bonne Étoile, donc le nouveau film d'animation des studios Disney qui, pour son premier week-end, cumule 456 261 entrées. À cela, on ajoute évidemment les chiffres très impressionnants des avant-premières et cumule à 597 069 entrées. Quelques comparables, eh bien, on va dire, ils se situent plus ou moins entre le Grinch et la Reine des Neiges. Et au niveau, on va dire, d'un lifetime très, très, très estimatif, puisqu'il faudra voir avec la concurrence qui va arriver. Mais on est autour des 2,5 au plus bas, 3,5 au plus haut. Donc, on va dire résultat en demi-teinte pour un Disney.
Alors, moi, je dirais plutôt quand même un bon résultat. Alors, c'est vrai que si on compare avec les Coco, les Frozen, c'est en dessous. Mais par rapport au dernier résultat d'animation, c'est une bonne ouverture. Par rapport aux États-Unis, c'est une belle ouverture. Alors, c'est vrai, il a eu beaucoup d'avant-premières à prendre en compte. Sinon, il se situe exactement au même niveau qu'Encanto. Encanto qui a terminé quand même à plus de 3,3 millions. Donc ça reste, en tout cas, c'est pas la catastrophe annoncée. Là, on parle quand même déjà de 600 000 entrées engrangées après le premier week-end.
Hors vacances,
c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est dans 3 semaines Noël. Donc on va voir un petit peu les pertes. C'est vrai que c'est là où ça va être intéressant sur la deuxième semaine. En plus, il a de la concurrence aussi avec Migration. Donc est-ce qu'il sera sur du moins 30, moins 50, l'impact va être super important pour, au moment de l'arrivée des vacances, à quel niveau, à quel volume il va se situer. Mais voilà, c'est moi, je le mettrais quand même plutôt comme un démarrage positif.
Alors, en deuxième démarrage du week-end et qui arrive en quatrième position du général, c'est le film de SND, La Tresse, adapté du livre à plus de 2 millions de lecteurs, Dixit, notre ami Christophe Courtois de Laetitia donc Colombiani, qui fait 204 000 entrées. Une fois de plus, on ajoute des AVP à hauteur de 42 000 et un premier week-end à 246 820. Là, clairement, vu les retours spectateurs, la notoriété de la réalisatrice et quand même les assez bons retours, on peut quand même tabler sur 1 million d'entrées, je pense, Julien.
Ah bah, je pense, hein, comme tu dis, hein, les notes, elles sont canon, voire vraiment des très bonnes notes. Si on prend un peu quelques comps, on avait discuté avec Tom tout à l'heure, il y avait Lion qui avait ouvert un peu plus haut, 353 000, mais qui termine à 1,8 million. Alors après, il y a des film qui pourrait lui ressembler sur les chemins de l'école qui avait ouvert à 95 000 et qui termine à 1,5 million. Il y avait Capharnaüm en 2018, lui qui a ouvert à 80 000 et qui a terminé à 380 000. Donc oui, là, avec une belle ouverture comme ça, des notes, je vois pas pourquoi le million lui résisterait, mais c'est presque, et pourquoi pas aller voir plus haut en fait. Mais bon, qu'il aille déjà chercher son million aujourd'hui, c'est déjà un énorme score. Je crois que pour l'instant, on a quoi ? On a 36 films au-dessus du million d'entrées. Vous vous souvenez, l'objectif sur une année, c'est de passer ces 50 titres qui passent cette barre du million d'entrées. Donc, on espère qu'il sera dedans.
En tout cas, il a déjà les ingrédients du petit film phénomène, hein, puisque podcast sur le film, mais avant tout et surtout la notoriété de son autrice-réalisatrice, Laetitia Colombiani, et les vacances de Noël vont lui être évidemment très profitables. On a parlé du premier, du quatrième, on va revenir sur la deuxième et la troisième place du classement, avec Jérémy Napoléon qui prend la deuxième place.
Mais oui, Napoléon qui accuse quand même une bonne perte. Hein,
bonne perte, importante. Hein,
ouais. Moins 50%, bon, après, en France, depuis la sortie de Napoléon, tout le monde y va de son avis sur est-ce que c'est un film historique, est-ce que c'est pas un film historique, est-ce que c'est un portrait au vitriol ou pas, etc., etc. Donc, quand même, dans le sentiment général est que le film est apparemment un peu décevant, mais n'empêche, 324 000 entrées pour son deuxième week-end, cumule à date à 1 088 000 entrées. Il devrait aller chercher son million et demi facilement.
Oui, sans problème.
C'est quand même un score assez honorable.
Je sais pas, moi, je vous avoue, je le voyais plus haut au moment de la sortie de la bande-annonce, de l'impact que ça aurait dû être en France, parce qu'on a beau le critiquer, en tout cas en France, c'est quand même le deuxième territoire à l'international.
Ouais.
Donc c'est un beau score, mais c'est vrai que je l'avais vu un petit peu plus haut. Les films aujourd'hui, on parle de Killer of the Flower Moons, ils ont du mal à aller chercher à des niveaux un petit peu plus importants. Ça aurait pas été mal qu'il aille au-dessus des 2 millions d'entrées. Et là, ça va être compliqué. C'est vrai que on sera plus proche des 1,5 million, 1,7 million que des 2 millions.
En tout cas, un film qui risquerait de terminer à peu près au même niveau et dans un tout autre style, quoique, puisqu'il est, c'est aussi une production américaine, c'est Hunger Games, donc le nouvel épisode de la célèbre franchise qui, pour son troisième week-end, ajoute 219 000 entrées, perte de 32%, donc un peu plus mesuré.
Meilleure perte du top 10.
Enfin, plus, okay. faible, ouais, plus faible. Et ouais. un cumul 1 200 000 entrées, donc peut-être aller 1 6, 1 7, mais je pense que l'objectif sur ce, pour réactiver cette franchise, il est quand même largement rempli. On repasse aux nouveautés avec en cinquième position le film de Gaumont, Le Temps d'aimer, qui avec ses 80 000 entrées plus 6 900 entrées d'AVP ouvre à 95 000 entrées. Donc, qu'a-t-elle qu'il est verré, elle est à peu près dans, à peu près au niveau de Réparer les vivants, qui avait fait un peu plus. Là, très clairement, un final à 300 000
dans
entrées
standard, ouais.
Devrait... ça devrait être son score final, ce qui est quand même pas mal vu le sujet, le film d'époque en costume. Aujourd'hui, les films français, il y en a beaucoup qui aimeraient atteindre ces hauteurs. Et en sixième position, l'une des très très belles surprises, même si bon, on pouvait quand même l'attendre, Tom, c'est...
Ouais, c'est Perfect Days plutôt, le film de Wim Wenders sorti par Hugo. C'est clairement la belle surprise de la semaine, hein, puisqu'il cumule déjà à l'issue de ses 5 premiers week-ends, aidé par 9000 entrées d'avant-première, 82 566 entrées pour le film présenté en compétition à Cannes, voilà, et qui a depuis Cannes fait pas mal de festivals à travers l'Hexagone, mais c'est en tout cas un démarrage plus que satisfaisant pour le dernier film de Wim Wenders.
Bah, film japonais, plus de 2 heures, apparemment très minimaliste, si ce mot a un sens, mais en tout cas, ouais. Surtout que Wim Wenders, ces dernières années, c'était quand même pas... Il était plus trop le roi du box-office. Donc là, comme quoi, l'effet Cannes, ça marche toujours.
Un film dont on parle depuis plusieurs semaines et qui est également japonais, il s'agit du Garçon et du Héron, sorti par Wild Bunch. Jérémy, lui, il continue son j'allais dire admirable, non, incroyable carrière.
Tranquillement, moins 43%, mais 67 000 entrées ajoutées pour un cumul à 1 436 000. Donc il va dépasser Chihiro, je crois que c'est qui était le numéro 1, ou le vent se lève.
Chihiro, je crois. Chihiro. Il est à 30 000 entrées de son meilleur score.
Voilà. Donc une fois de plus, bravo à Wild Bunch pour un film certes d'animation, mais très très exigeant. Et en huitième position, alors là, on est obligé de le dire, c'est quand même une grosse déception. C'est le film de Sony Thanksgiving, donc la nouvelle réalisation de Eli Roth, et oui, le réalisateur culte d'Hostel, qui démarre avec un tout petit premier week-end. Bah,
tu sais quoi, je savais même pas que c'était Eli Roth qui réalisait.
Bah, je crois. Enfin,
Ouais. Eli Roth, tout à fait, ouais.
Et ben, il est entre La Maison du Mal et Le Dernier Voyage de Déméter.
Thanksgiving, la semaine de l'horreur, ouais, tout à fait.
Okay, ouais. Mais Thanksgiving en France, personne ne le fait.
Ouais. certes. Mais je crois qu'on
peut se poser la question sur le titre, hein, justement.
Ah, mais
parce que c'était le bon titre.
Tu pouvais pas changer le thème profond du film.
Non, mais parce qu'il peut-être l'appeler la semaine de l'horreur, finalement.
Ou la fête américaine que personne ne comprend en France.
Je sais pas si je serais allé voir un film d'horreur qui s'appelle La Semaine de l'horreur.
Ah, tu dis que ça va durer longtemps. Quand même.
En tout cas, c'était bien tenté de la part de Sony tout de même de le positionner à cette date-là pour prendre le relais, notamment de Five Nights at Freddy's qui est arrivé sur sa quatrième semaine. Voilà, 64 000 entrées, c'est un score, surtout sur une combinaison relativement limitée de 200 copies, mais je pense qu'on peut s'accorder sur le fait de se dire que c'est pas suffisant tout de même.
Moins de 16 ans aussi, hein, précisons-le.
Ouais, et ça, forcément, ça peut impacter, même si on a vu récemment, on a plein d'exemples, et notamment La Main, qu'un moins de 16 n'empêche pas de faire de bonnes entrées.
Complètement. Alors derrière, on va essayer d'aller un peu vite, mais The Marvels, qui malheureusement n'en finit pas de décevoir, 57 000 entrées en plus, pour un total à 718 000 entrées. Derrière, une autre déception relative quand même, SND ne peut pas toujours tout réussir, parce que l'Abbé Pierre, qui perd 42% et qui ajoute 53 000 entrées pour un cumul à 719 000, le million est définitivement inatteignable, et c'est bien dommage vu l'ambition qu'il y a eu sur ce film et le budget. En 11e position, donc Five Nights at Freddy's, qui certes perd 50%, mais qui ajoute 45 000 entrées, qui cumule aujourd'hui 813 000 entrées, donc qui aura fait plus que par exemple le reboot de l'Exorciste, qui aurait pu le croire. En 12e position, on en parlait en début d'émission, et bien Renaissance, a film by Beyoncé, qui ouvre à 42 000 entrées. Alors Julien, par rapport aux autres films Pathé Live, on se situe à quel niveau?
Ouais, t'es à peu près au niveau, donc t'étais au-dessus de Taylor Swift, t'étais à peu près au niveau d'Orelsan, et le record, toujours détenu par Indochine, 120 000 entrées.
Vive la France. 13e position, 3 jours max, qui termine tranquillement sa carrière. 36 000 entrées en plus pour un cumul à 1 839. Rien à perdre, le nouveau Virginie Efira Movie. Deuxième week-end, 36 000 entrées pour un total de 126 846 entrées. C'est plutôt un score assez honorable. Il va aller faire ses 250 000 entrées. Donc, vu une fois de plus, hein, vu le sujet du film, là, c'est Mère Courage et ses enfants, by Virginie Efira, c'est quand même pas
trop mal. À chaque fois, on dit vu le sujet du film, et Virginie, elle nous a habitué à faire du 400, 450. Moi, j'avoue, je suis un petit peu déçu pour cette fois.
Ah, mais c'est pas
revoir Paris, quoi.
Voilà, c'est peut-être un sujet qui, de prime abord, parle un tout petit peu moins français.
En soi, vous avez raison, si elle arrive à faire 200, 250 000, c'est un beau score. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Virginie Efira a une telle main mise. En tout cas, elle arrive à avoir un public qui la suit. Et à chaque fois, on est sur des 400 000 entrées, même sur des sujets compliqués.
En tout cas, en 15e position, qui talonne à quelques milliers d'entrées, c'est Mars Express, le film d'animation de GBK, qui ajoute 34 000 entrées pour son deuxième week-end et qui cumule déjà 94 000 entrées.
Ouais, on avait d'ailleurs reçu le réalisateur au micro des Bruits Film il y a désormais 2 semaines pour notre précédent podcast. Et avec seulement moins 21% de pertes, c'est tout simplement la meilleure tenue du top 20. Tenue remarquable hein, pour Mars Express, qu'on peut qualifier plutôt de film d'animation pour adultes.
En tout cas, un autre film, avec une perte en dessous des 30%, c'est Et la fête continue, le nouveau film du Robert Guédiguian Universe. Troisième week-end, 27 000 entrées et 155 000 entrées en tout. Derrière, bah, c'est une bonne surprise, une bonne tenue. Simple comme Sylvain de Memento, donc le film de Monia Chokri, quatrième week-end, 23 000 entrées en plus et 200 000 entrées au total, ça y est, c'est déjà son plus beau score en France puisqu'il dépasse La femme de mon frère. En 18e position, comme par magie, pour son troisième week-end qui ajoute 23 000 entrées et qui cumule 180 000 entrées. 19e position, c'est peut-être la plus grosse déception semaine. Et pourtant, le trailer avait été révélé au Congrès des exploitants et avait fait beaucoup parler de lui. C'est Dumb Money. Donc, je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette histoire du rachat d'actions par la communauté fan des magasins de jeux vidéo GameStop, donc qui était allé à l'encontre des tendances boursières. Et qui, avec Paul Dano, ouvre avec seulement 19 000 entrées. On est très très loin de score, par exemple, comme The Big Short d'Adam McKay.
Mais ça suit malheureusement la tendance au niveau mondial hein, pour le film qui peine à trouver son public à travers les territoires, et y compris au domestique aux États-Unis.
Et pour clôturer ce top 20, La Passion de Dodin Bouffant, le film de Gaumont qui va représenter la France aux Oscars s'il est retenu. En tout cas, quatrième week-end, perte de 39%, 17 000 entrées pour un total de 207 000 entrées. Et nous avons les chiffres des avant-premières de Migration, notamment, qui faisait son week-end d'avant-première. Qui démarre un peu timidement. On est autour des 35 000 entrées, Julien, c'est ça ?
Ouais, c'est ça à peu près. Donc, démarrage mercredi, on va voir vraiment la tendance. Il avait déjà, lui, le Disney, mais bon. Donc, à suivre.
À noter au niveau des caps importants qui ont été franchis, le consentement a passé la barre des 600 000 entrées. On peut noter également que The Old Hawk va finir sa carrière autour de 315-320 000 entrées, donc ce qui est une belle performance pour le film de Ken Loach. Little Girl Blue de Mona Hachache, lui, vient de passer les 50 000 entrées. Voilà, c'est des résultats, tout ça assez positif. Second Tour, lui, qui est en 6e semaine, va s'arrêter tout juste avant la barre du million d'entrées. Il est à 971 000 entrées et ça sent la fin.
Avec la facturation, il va aller chercher son million.
Oui, alors ça, tu me demandes d'expliquer un truc hyper compliqué pour les auditeurs.
Et on n'a plus le temps.
Ouais, on n'a pas le temps, mais on va dire qu'il va y arriver. Et Jérémy voulait conclure sur quelque chose.
Excusez-moi, j'ai totalement oublié de parler des autres démarrages, mais qui ne sont pas dans le top 20. Donc très rapidement, Calas Paris 1958, donc ça c'était un pâté live, 16 000 entrées. Le Noël de Peppa Pig par CGR Events, donc là, une fois de plus, on est sur du contenu événementiel, à 10 000 entrées. Et beaucoup, beaucoup plus loin, donc un documentaire, Césaré Evoria, la diva au pied nu, 3266 entrées, cumule à 7457, distribué par épicentre. Les filles vont bien d'Arizona, 5 413 000 entrées. Et Conan, le nouveau film de Bertrand Mandico, distribué par UFO, qui fait 6 554 entrées. Et enfin, allez, je crois que ça doit être le dernier démarrage, le nouveau film de Pan Distribution, Augouré, qui était présenté à Cannes, qui cumule 5 088 entrées.
Merci pour ce Top France hyper exhaustif. Arthur, tu as 5 minutes pour nous parler du sondage Twitter et des sorties de la semaine.
Alors, 4 des 12 nouveautés étaient en compétition dans le sondage de cette semaine. Ça se joue vraiment à une goutte d'eau, parce que Bâtiment 5 arrive en première position à 39,4% et Migration juste derrière à 36,3%. Deux films dont nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir, en tout cas avec les réalisateurs, arrivent tous les deux en tête de ce sondage. En troisième position, Soudain Seul à 18,1%, et enfin Noël Joyeux qui arrive avec 6,3%. Comme je vous l'ai dit, c'était seulement 4 des 12 nouveautés de la semaine prochaine. Outre Migration, Noël Joyeux, Bâtiment 5, on retrouvera aussi le film d'animation japonais distribué par Arthouse, Le Grand Magasin. On retrouvera La Chimère, distribuée par Alvitam, le nouveau film d'Alice Roche-Washer, le film distribué par Réseau Levante, un film distribué par JHR Frémont, Les Enfants du Paradis, distribué par la 25e heure. Et enfin, on aura la reprise, qui devrait plutôt bien marcher, à mon avis, du film Les Trois Mousquetaires, une semaine avant la sortie du nouvel opus, qui sera proposé par Pathé. On aura également, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, des séances événementielles, en tout cas en format spécial, du film Godzilla Minus One, qui cartonne aux États-Unis mais également au Japon.
Voilà, cette semaine encore, l'offre est pléthorique, avec notamment deux films dont on a reçu les réalisateurs ces dernières semaines. Donc on leur souhaite évidemment le meilleur. On souhaite le meilleur à Benjamin Reiner qui nous a donné cette interview, très gentiment cette interview, qui j'espère vous a beaucoup plu. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Aurélien sera de retour aux commandes. Merci beaucoup, messieurs. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine cinéma à tous. À bientôt.
Salut.
Salut.